le complot, selon vous, a été organisé par le vice-président Lyndon Johnson, qui trouvait les frères Kennedy trop curieux.
Il y a aussi des théories qui disent que justement le CIA voulait faire quelque chose contre Kennedy.
C'est impossible que Kennedy ait été abattu par un seul tireur.
Le 22 novembre 1963, il y a 55 ans, se jouait un drame politique qui allait marquer l'imaginaire collectif du XXe siècle, l'assassinat à Dallas du 35e président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Très vite, un suspect est arrêté, puis tué, Lee Harvey Oswald, mais enquête après enquête apparaît la théorie notamment du deuxième tireur, et avec elle, le drame politique bascule dans ce qui va devenir le maître étalon de toutes les théories du complot du XXe siècle. L'an dernier, l'administration Trump a déclassifié quelques 3000 documents, et malgré une abondante littérature officielle et officieuse en la matière, un doute continue de persister sur la réalité de ce qui s'est réellement passé. Bonjour Thomas Negaroff.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste des États-Unis, auteur de Kennedy, une vie en clair-obscur chez Armand Collin. Alors évidemment, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que JFK a été tué par Oswald ?
Aujourd'hui tout de même, s'il y a bien quelque chose qui fait à peu près consensus, c'est que Oswald est tireur. J'ai pas dit le seul, j'ai pas dit qu'il est animé uniquement par sa foi, qu'il a peut-être été téléguidé par quelqu'un, c'est là où en fait on tire un fil, mais le fait que Oswald ait tué Kennedy, je pense que honnêtement on peut très peu le remettre en cause cette idée-là, mais ça ne répond pas évidemment à toutes les questions, ce n'est que un élément qui après même justifie beaucoup des théories du complot.
Cet événement, il est extrêmement documenté par les historiens, par les journalistes, par des enquêteurs. Comment se fait-il qu'aujourd'hui il y ait encore ce doute qui subsiste autour de ce que aujourd'hui les historiens attestent de la réalité des faits?
Dire c'est pas possible, avec tout ce qu'on a, forcément, il ne peut pas y avoir de complot. Ça, c'est la théorie des légalistes, ceux qui vont nous dire, mais attendez, s'il y avait quelque chose, on l'aurait su. S'il y avait eu 2, 3, 4, 10, 20 personnes impliquées, il y a forcément un moment donné où ça serait sorti. Ça, c'est un peu la théorie dite du bon sens, qui a été quand même celle largement véhiculée par les autorités américaines, par la commission Warren, par les différentes commissions qui ont travaillé sur la question et qui ont tenté d'imposer l'idée d'un tireur isolé, Lee Harvey Oswald, qui malheureusement a été assassiné. Alors, où est le sel de cette histoire? C'est que d'un côté, effectivement, c'est l'apparent bon sens que la masse de documents nous dit, non pas la vérité, mais nous empêche de penser à une autre vérité. Et puis, il y a les images. Ce qui est passionnant, c'est qu'on voit tout. Et que malgré le fait qu'on voit tout et que manifestement, on ait tous les témoignages possibles, il reste un espace mystérieux. Et c'est là, dans cet espace mystérieux, que viennent effectivement se ranger toutes les théories complotistes et qui ont, à mon avis, encore énormément de grains à moudre, dans la mesure où c'est pas parce que les documents sont rendus publics que tous les documents sont rendus publics. On sait évidemment que s'il y a des organisations mafieuses, la CIA, le FBI impliqués, c'est des gens qui sont capables de
qui
faire...
sont des agences gouvernementales et pas des organisations mafieuses.
Pardon, j'allais un peu vite. Et qui sont capables de faire taire des témoins, qui sont capables de faire disparaître des documents. Il y a l'impression, effectivement, de la totalité des informations devant nos yeux, y compris les images. C'est là que le paradoxe réside. Et en même temps, il y a aussi la possibilité, derrière ces images, de découvrir une autre vérité. Et là, on quitte parfois un peu le champ de l'histoire pour être davantage dans le champ de l'enquête et de l'imagination, voire même du roman. Parce que moi, je pense que l'une des théories les plus excitantes, elle vient probablement de la littérature, et notamment de James Ellroy dans American Tabloid.
Est-ce que justement la culture populaire, les artistes, n'ont pas aussi beaucoup contribué à faire en sorte qu'on ait le droit de douter encore aujourd'hui des faits tels qu'ils sont présentés?
Mais évidemment, de toute façon, il y a une dimension extrêmement mythologique là-dedans, ne serait-ce que même que cette Amérique qui sombre dans le chaos quasiment en un claquement de doigts. Tout ça, effectivement, ça ouvre un champ à l'imaginaire, évidemment. Et ce champ à l'imaginaire, il va être investi par des artistes. Warhol a fait des sérigraphies sur le sujet, par des romanciers, des écrivains, Don DeLillo, Ellroy et d'autres, beaucoup, même Marc Duguin chez nous. Il y a aussi des écrivains français qui se sont appuyés sur cette histoire-là. C'est devenu un genre littéraire quasiment. C'est-à-dire que on peut se demander, mais pourquoi écrire encore sur Kennedy? Pourquoi écrire encore là-dessus? Parce qu'il y a à la fois une excitation, quelque chose d'un peu mythologique et qui, du coup, donne un champ d'investigation littéraire, artistique, poétique, tout ce que vous voulez. Et puis aussi, quand même, la volonté de tenter d'aller gratter derrière la version officielle.
Je le disais, l'administration Trump a déclassifié 3000 documents l'an dernier. On a longtemps dit que, là, ça fait 55 ans, qu'on finirait par savoir, que les historiens finiraient par avoir accès. Donc, est-ce qu'on finira par savoir, ou en tout cas par avoir un moment où on pourra dire il n'y a plus aucun doute sur le fait qu'il n'y ait pas de complot? Et avec la question subsidiaire qui est de dire, si des gens maintiennent aujourd'hui encore une version version fausse des faits, à qui profite le crime, puisqu'il y a forcément à quelqu'un que cela profite.
Franchement, quand on regarde, les archives ouvertes, d'ailleurs par le film d'Oliver Stone, vous voyez, comme la fiction nourrit la théorie. C'est-à-dire que c'est un film qui s'achève en demandant aux Américains d'écrire à leurs élus pour faire la lumière sur ce meurtre. Le film vraiment nourrit la théorie du complot, un complot lié aux marchands d'armes, la CIA, la mafia, tout est mélangé dans la théorie de Oliver Stone et en fait de Jim Garrison qui avait mené l'enquête. C'est ce film-là qui a ouvert les archives. Alors les archives, moi je les ai beaucoup regardées, elles sont énormément caviardées, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits où vous avez du noir, etc., pour protéger les sources. Et donc le résultat finalement, c'est que quand on regarde la totalité des archives, bah, on se dit que peut-être il y a la réponse à nos questions, mais qu'on ne peut pas forcément la voir parce qu'elle est maquillée de noir en permanence pour protéger des sources. Mais de toute façon, les historiens les plus sérieux de cet assassinat savent bien que s'il y a une réponse, elle ne sera pas dans les archives. À part la découverte d'un document, on a des gens qui, sur leur lit de mort, ont annoncé avoir fait partie du complot, etc. Mais à chaque fois, il a été extrêmement difficile de confronter ces propos à la réalité, de croiser des informations. Alors vous avez des gens qui sont absolument persuadés, parce qu'ils ont trouvé le dernier témoin, c'est le titre d'un livre, que c'était Lyndon Johnson qui était responsable de ça. On a beaucoup de propositions devant nos yeux, parfois avec des éléments, et souvent on a le sentiment, et c'est l'erreur que font beaucoup de théoriciens complotistes de cette histoire-là, ils ont souvent le sentiment que corrélation vaut causalité. Par exemple, vous avez Allen Dulles, patron de la CIA, qui est viré par John Kennedy après le fiasco de la baie des cochons en 61. Eh bien, Allen Dulles a voulu se venger, notamment parce que son adjoint est l'ancien maire de Dallas. Donc, ayant une connaissance du passage du cortège et aurait pu ainsi placer Lee Harvey Oswald au bon endroit.
On a vu, hein, il y avait une grande enquête sur les théories du complot et comment beaucoup de Français croient encore à certaines théories du complot. Il y a une de nos confrères notamment qui a dit « Ah mais aujourd'hui, douter des faits autour de la mort de JFK, ça ne fait pas de quelqu'un un complotiste. » Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut douter de ce qui a été établi par les historiens et pour autant ne pas participer à une théorie ou une pensée complotiste.
Quand on reprend l'étymologie même du complotisme, c'est considérer qu'il y a un complot derrière la vérité qu'on nous propose. Souvent, on va un peu plus loin en disant « il y a un complot qui a été pensé pour nous empêcher d'accéder à cette réalité ». Là, dans le cas de Kennedy, c'est un peu compliqué parce qu'il y a les deux dimensions. Moi, je pense que Kennedy a été victime d'un complot. Est-ce que ça fait de moi un complotiste ? Étymologiquement, peut-être, dans la mesure où je pense que si on ne le sait pas 55 ans plus tard, c'est bien parce qu'on nous a empêchés de voir cette réalité, parce qu'on ne voulait pas mettre en avant la réalité d'une version. Il y a aujourd'hui, honnêtement, peu d'historiens sérieux qui s'en tiennent à la version donnée par l'administration et notamment par la commission Warren, qui a enquêté de manière extrêmement critiquable en bâclant largement l'enquête, ce qui fait d'ailleurs qu'en 77, le Congrès des États-Unis, la Chambre des représentants, a relancé l'enquête avant le film d'Oliver Stone et a conclu en disant « on ne peut pas affirmer qu'il n'y avait qu'un seul tireur et on ne peut pas affirmer qu'il n'y a pas, au-delà de Lee Harvey Oswald, une organisation qui a pensé et planifié l'acte ». Cette histoire, Kennedy, elle nous dit aussi qu'en tant que citoyen, il est aussi de notre devoir d'interroger des versions qu'on peut tenter parfois de nous offrir comme étant la version qu'on ne peut pas discuter. Je pense que précisément dans une démocratie, il est aussi très sain d'interroger la parole officielle sans forcément tomber dans un complotisme. C'est là que le chemin est extrêmement difficile et extrêmement tenu.
Merci beaucoup Thomas Negaroff. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste des États-Unis, auteur de Kennedy, une vie en clair-obscur, c'est aux éditions Armand Collin.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.